Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Décidément, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et le monde de Zeb va bien au-delà des 23 millions d'albums de Titeuf vendus tout autour de la planète. Car Zeb est à la fois un musicien, un aquarelliste, un scénariste et un sage qui sait manier les pires insultes des cours de récré. Zeb est d'ailleurs en totale lâcher prise dans le nouvel album de Captain Biceps qui sort chez Glénat, dessiné par Thébault, scénarisé par Zeb. Et c'est jouissif. Car il n'est jamais trop tard pour retrouver ses 11 ans. Voilà, alors on part en balade cet après-midi avec Zeb. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Zeb, le monde entier, on commence par un truc assez sérieux, mais inattendu, effectivement, il faut tenir les promesses. Le monde entier est épouvanté par l'incendie qui ravage la forêt amazonienne et on connaît l'implication, je vais dire indirecte, du président brésilien Jair Bolsonaro dans ce désastre aux répercussions planétaires. Or, vous avez eu affaire à Bolsonaro, Zep, car lorsqu'on vend 23 millions de bandes dessinées, bah bien évidemment, on en vend aussi au Brésil. Et l'année dernière, pendant la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro, qui n'est jamais à court de provocation, vous a accusé de pervertir la jeunesse de son pays. C'est complètement surréaliste.
Ouais, c'est assez surréaliste, surtout que Titeuf au Brésil, c'est pas quelque chose qui... Il y a déjà très peu de librairies. Enfin, la bande dessinée, c'est pas du tout un phénomène comme ça l'est en France.
Ah oui.
Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tout à coup, ce type qui vient aux 20h pour faire son allocution présidentielle. Enfin, il était en pleine campagne. Hein, c'était juste au dernier tour de la présidentielle. Et qui se met à brandir le guide sexuel.
Alors, moi, mais quelle pub !
Je parle pas portugais. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux une ou deux fois s'attaquer au livre. Ça fait partie de toutes ces provocations.
Quoi. Oui, il d'une espèce là, de puritanisme voilà, malhonnête.
Exactement. Ouais.
Alors, il n'y a jamais de tabou dans les scénarios que vous développez en BD. Vous dites, le tabou, c'est l'invention des adultes qui ont peur de l'intelligence des enfants.
Ouais, je pense ça, vraiment. Je pense que quand on est enfant, c'est complètement naturel de poser des questions, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et simplement, on comprend que certains sujets sont embarrassants pour les adultes. Donc, par pudeur ou par gentillesse ou respect pour ses parents ou parce qu'on n'a pas envie d'avoir de problème, on va éviter d'en parler, on va arrêter de poser des questions. Mais le phénomène naturel, c'est de poser des questions pour qu'on nous explique, pour qu'on comprenne. Et on peut se trouver parfois face à des adultes qui disent « Ah non, ça, tu sais, une question qui ne se pose pas. » Je trouve qu'il n'y a pas de question qui ne se pose pas. Je trouve que ça ne marche pas. C'est une forme d'ignorance qu'on installe petit à petit chez l'enfant.
Alors, par exemple, en 2015, Titeuf a permis de poser des questions essentielles, puisque Titeuf s'est retrouvé en une du journal Le Monde pour raconter avec ses yeux et à hauteur d'enfant le drame des migrants.
Ouais, c'était assez étonnant cette histoire, parce que j'ai participé à une journée où tous les blogueurs du journal Le Monde faisaient quelque chose sur le drame des migrants. Donc moi, j'étais touché, comme tout le monde, par les images que je voyais, et j'étais également, comme tout le monde, à force de voir ces images qui étaient insupportables, on en vient à se blinder et à se faire une carapace en disant oui, mais au fond, on trouve des raisons pour justifier, pour que ce soit pas trop insoutenable d'être face à ce truc, alors que nous, on est sur notre fauteuil en train de manger des chips ou de boire un verre de rouge et on voit ça, c'est intolérable. Et donc, j'ai raconté, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de raconter cette histoire à travers un personnage de fiction, parce que souvent, on est plus touché par de la fiction. Quand on nous raconte une histoire, on est prêt à être ému, on est prêt à adhérer à une cause. Et donc, ce qui m'a semblé le plus juste, c'est de le faire avec le personnage de fiction que j'avais sous la main, qui était Titeuf. Donc, j'ai raconté une situation de guerre qui explose dans son quartier. Il fuit, il perd ses parents, disparaissent sous des décombres. Il a une partie de ses copains qui
disparaissent. Et ça se termine de façon funeste.
Et voilà, bah, il arrive dans les barbelés. Effectivement, on ne laisse pas entrer. L'histoire s'arrête là. Et c'est une page qui a été énormément relayée
sur les réseaux
sociaux, partout dans le monde. Et ça montre qu'effectivement, on est une espèce qui a besoin qu'on nous raconte des histoires. Parce que cette histoire, je ne faisais rien d'autre que de raconter, avec un personnage de fiction, ce qu'on voyait tous les jours à la télévision.
Alors Zeb, on ne dit jamais que J.K. Rowling est la mère d'Harry Potter. On dit toujours que Zeb est le père de Titeuf. Ça, c'est une hérésie. En fait, Titeuf est votre avatar.
Complètement, ouais, je ne suis pas du tout son père.
sinon,
je serais beaucoup plus sévère.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas du tout Enfin, si mes enfants se comportent comme Titoff, ça me fera beaucoup moins marrer, en fait.
Bon, alors, et... si Titoff est votre avatar, Captain Biceps, alors lui, il est votre avatar adoptif, voilà, puisque vous signez les scénarios, mais vous ne l'avez pas créé. C'est Thébo qui le dessine.
Bon, on l'a créé ensemble, en fait. On l'a créé ensemble. C'était. J'ai lu des comics, donc des bandes dessinées de super-héros quand j'étais enfant, comme un peu tous les petits garçons de ma génération et des générations d'après. Mais Thébo, qui est le dessinateur, lui, c'est vraiment. Il a baigné dedans, quoi. Et. On s'occupait à l'époque d'un petit journal, enfin de magazine qui s'appelait Tcho, qui n'existe plus malheureusement. Et on cherchait des idées de rubriques. Et moi, il venait de sortir le Spider-Man de Sam Raimi, qui a eu un énorme succès et qui a relancé en fait toute cette mode des super-héros au cinéma. Et je me suis dit que ce serait bien de présenter chaque fois pour les jeunes lecteurs, donc c'était un magazine jeunesse, hein, de présenter des super-héros, leur histoire, leurs origines, qui sont souvent assez marrantes. Hein. Les gars, ils ont bouffé un sandwich au plutonium et deviennent super pain beurré.
On est très loin de ça avec Captain Biceps, hein, qu'on va présenter dans quelques secondes.
Et je me suis dit, plutôt que de faire vraiment une fiche technique, on va faire une sorte de forum où le super-héros, Spider-Man, Iron Man, Hulk, vient et il fait un combat contre le super-héros de la maison, qui pourrait avoir un nom crétin du genre Captain Biceps.
Et ben voilà, alors il est temps justement
donc, il est né comme ça.
De présenter ce justicier hors homme. Alors au départ, on a Elmer, tellement de boutons d'acné sur le visage que ses potes lui disent en fait qu'il a des Smarties collés sur la tronche. Doué en maths mais nul en gym, aucun succès auprès des filles. Alors grâce aux BD de super-héros, il oublie ce monde cruel parce qu'il adore lire ses BD. Quand un jour, après le collège, ben voilà qu'il voit sa mère jeter ses BD dans une benne à ordures. Il plonge dans la benne qui se referme sur lui. Réaction biochimique surnaturelle, Elmer devient le condensé de tous ses super-héros adorés. Désormais, il est Captain Biceps. Alors bon, d'accord, mais est-ce que c'est un travail particulier de faire vivre un personnage qu'on a... Alors, vous dites que vous l'avez créé ensemble, mais vous ne le dessinez pas. Vous l'appropriez comment, en fait, cet Elmer ?
Je me projette complètement dans les pages que fait Thébo. En fait, depuis très longtemps, on collabore. Et quand j'ai eu cette idée de rubrique... Comme très souvent, je lui ai montré, parce qu'on échange nos idées. Lui habite Caen, moi j'habite Genève, on n'est pas tout près, mais on s'envoie toujours par mail nos idées. Et lui m'a dit, tu ne vas pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi le dessinateur de super-héros. Et j'étais très heureux qu'il dise ça, parce que moi je suis fan de son dessin, et Thébo, il a ce truc particulier, c'est qu'il a un dessin... Il a un dessin rigolo, il a un dessin jeunesse. Thébo, s'il dessine un personnage qui a les tripes à l'air ou qui a une couille arrachée...
C'est terriblement
quand même,
efficace.
C'est quand même joli. Mais c'est efficace, c'est rigolo, mais c'est joli. C'est-à-dire que les enfants vont trouver ça marrant, mais personne, jamais, on a un parent qui vient de lui dire « Ah, ça va pas, c'est pas possible de faire ça. » Parce que son dessin fait que ça marche. C'est drôle et ça reste frais, même si c'est dégueulasse. Et donc, c'est génial parce qu'on peut faire des choses hyper transgressives. Enfin, voilà.
Il nous venge. Exactement. Alors, Zep, juste avant de faire une pause, cette question, comme dans les génériques de films comiques où il est devenu fréquent maintenant de glisser un bêtisier, et ben dans la marge des aventures de Captain Biceps, vous avez instauré, c'est peut-être vous, Thébo, un bonus parfaitement délirant. Et je remarque qu'il n'y a pratiquement plus de cases dans l'album. On emprisonne plus les personnages dans des cases. L'espace que procure une page est complètement repensé aujourd'hui. Et parfois, il n'y a plus de bulles. Non plus.
Oui, ça dépend des projets, mais Captain Biceps, au départ, c'était une rubrique de magazine, donc on est comme dans une espèce de forum, ça ressemble plus à une scène de théâtre qu'à du cinéma. Donc les personnages sont là, en pied, hein, debout, et ils se battent, et c'est un exercice de style. La première image, il y a à chaque fois Captain Biceps qui rencontre son adversaire, et la dernière image, il l'a anéanté, et il part en brandissant son poing et en faisant Captain Biceps. On sait toujours comment ça commence, comment ça finit. Et ce qui est drôle, c'est cette espèce de petite... bande latérale qui s'appelle Le saviez-vous, où on explique les origines ou une anecdote, un secret sur la vie de ce personnage qui se faisait beaucoup dans la culture comics de Stan Lee, dans les comics Marvel. C'était très sérieux, on expliquait Peter Parker lorsqu'il fut piqué par une araignée, exposé à des rayons gamma. Aussitôt, son ADN fut transformé, il devient Spider-Man.
Chez vous, c'est fou.
Nous, on parle là-dessus, mais il devient, si malheureusement les rayons gamma étaient bombardés sur une assiette de soupe, il devient Potage-Man. c'est pas de bol.
On retrouve tout de suite Zep.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Une heure en tête-à-tête avec un invité pour se replonger dans son parcours, dans son actu. Et cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit le créateur de Titeuf de retour avec le nouveau Captain Biceps.
Le 7e album des aventures de Captain Biceps vient de sortir chez Glénat. super-héros, Captain Biceps, dessiné par Thébault. Ses aventures sont scénarisées par Zep. Et Zep, eh ben ça tombe bien, il est mon invité cet après-midi. Alors Zep, vous qui créez des héros si politiquement incorrects et d'une impertinence si rafraîchissante, eh ben vous êtes Suisse. Vous êtes né en Suisse, vous avez grandi en Suisse et vous habitez toujours en Suisse, pays du calme légendaire, des coffres-forts, des alpages et des sugus, pour les connaisseurs. Alors, il faut se méfier de l'eau qui dort. L'humour suisse est aussi fou, par exemple, que l'humour belge ?
Ah, je pense qu'il y a un humour suisse, ouais, qui est... On est un pays assez calme, effectivement, hein, c'est pas rien de le dire, et on est un pays qui est plus observateur qu'acteur, hein, sur la scène internationale. On est dans notre coin, on regarde ce qui se passe et on commente. Donc on est vachement éduqué à commenter, et l'humour, c'est une forme de commentaire. Et c'est souvent quelque chose qui naît d'une certaine anxiété face au monde. Moi, quand j'étais enfant, j'ai commencé à écrire et à inventer des histoires drôles, parce que pour moi, c'était une manière de traverser cette vie, ce qui me faisait peur, donc d'en faire une comédie.
Il faut préciser que votre papa était policier, n'est-ce pas ? Il avait l'habitude de rentrer à la maison en racontant avec délectation des faits divers absolument atroces qui nous faisaient faire des cauchemars.
Pas forcément avec délectation, mais c'était son quotidien. Donc effectivement, il racontait des choses parfois horribles. Enfin, quand on a 5 ans, 6 ans, qui ne donnaient pas forcément envie de se plonger dans le monde, quoi, de partir et de sortir du sein familial.
Mais votre père, donc, policier, avait de la fantaisie, le sens de la répartie, ou bien ses ordres étaient non négociables ? Il y avait une autorité incontournable à la maison ?
Non, il était assez drôle. Et mon papa était assez marrant. Il aimait bien, et il aimait bien la bande dessinée. Donc c'était aussi un lieu où on se retrouvait. On pouvait lire une bande dessinée ensemble, ou on ne la lisait pas ensemble, mais on l'avait lue tous les deux. Et donc on pouvait en parler. Il aimait bien le dessin, il aimait bien déconner. Mais bon, c'était un colosse, quoi. Donc, quand il disait quelque chose, il fallait obéir. Ouais.
Il y a une chose qui m'échappe, Zep, parce que ça m'intrigue. Enfant et adolescent, vous ne lisiez que des bandes dessinées, aucun roman, même pas les Trois Mousquetaires. Et vous dites que c'est Achille Talon qui a fait votre éducation littéraire. Comment peut-on être premier prix de français et carrément premier prix de toute une région en Suisse, pas seulement de votre collège, en ne lisant que les aventures d'Achille Talon ?
Ah, parce qu'à l'époque, je connaissais par cœur les aventures d'Achille Talon. Et le langage dans Talon, qui est quand même très verbeux, mais qui est drôle, avec cette espèce de surenchère de vocabulaire, était beaucoup plus riche que ce que proposait la littérature jeunesse à l'époque, qui était la Bibliothèque Rose. Hein, c'est bien, mais enfin, on ne peut pas comparer le Club des Cinq et Achille Talon en termes de vocabulaire. C'est du Rostand, c'est vraiment...
c'est Achille génial. Talon, c'est Rostand. Un scoop.
Ah oui, complètement. Et donc, ça m'a un peu sauvé parce qu'effectivement, mes profs étaient horrifiés à l'époque. Hein, la bande dessinée était très mal vue. Aujourd'hui, quand un enfant lit de la bande dessinée, on est déjà content qu'il lise. mais à l'époque, c'était vraiment pas bien vu, quoi. Donc, on était très inquiets. Mes parents étaient convoqués à l'école. On parlait avec le professeur. Alors, à l'époque, on n'envoyait pas facilement chez le psy, mais je pense que j'aurais eu droit à ce traitement, normalement. Et à partir du moment où j'ai eu un prix de français, on m'a fichu la paix.
Alors, Zep, vous aviez l'art des mots, mais plus encore celui du dessin. Pour faire vos gammes, j'ai appris que vous aviez l'habitude à la maison de recopier tous les albums d'Astérix, de Tintin, de Blueberry. Vous saviez à 12 ans déjà que votre vie entière se déroulerait penchée sur des planches à dessin. Vous le saviez ?
Je le savais, c'était très prétentieux de le savoir, mais j'en étais persuadé avec l'assurance qu'on a à cet âge-là, ouais. J'ai pas eu d'autre vocation que de faire de la bande dessinée. Et j'ai jamais rien fait d'autre, d'ailleurs. J'ai commencé à gagner ma vie en faisant de la bande dessinée, en faisant du dessin de presse, en dessinant des affiches. Mes petits boulots ont toujours été liés au dessin.
Mais à 12 ans, vous étiez presque professionnel. Parce que, bon, c'est l'âge où vous avez décidé de votre pseudo, puisqu'en réalité, vous appelez Philippe Chapuis. Vous êtes devenu Zep. Je ne sais pas si vous avez eu du nez ou de la chance, mais c'est quand même d'une efficacité redoutable pour signer des albums jeunesse. Et Zep, ça a d'abord été un journal que vous avez créé, que vous faisiez circuler de classe en classe, après avoir relié vous-même toutes les histoires. Donc tout le monde était au courant de cette double vie, les profs, votre père, policier.
Alors non, les profs, à partir du moment où ils ont été au courant, que c'était moi qui faisais ce journal, j'ai eu quand même des petits problèmes. Avec le lycée. C'est pour ça que c'était pas mon pseudonyme, en fait. Le journal s'appelait Zep. Et moi, je signais pas, je faisais tous les dessins et les textes dans le journal. On avait fait un numéro spécial con, ce qui n'était pas forcément brillant. Enfin, j'avais fait un numéro spécial con.
Ne me dites pas qu'il y avait des profs qui figuraient.
La couverture, c'était la caricature du directeur. Donc forcément, j'ai eu un petit problème. J'ai été expulsé 2 jours du lycée. Et quand je suis revenu, les gens m'ont appelé, m'ont dit « Voilà Zep, c'est Zep ». parce que c'était voilà, le gars qui a fait le journal. Et depuis là, voilà, j'ai signé ZEP. Mais avant, c'était pas, j'avais pas, je m'étais jamais, j'ai jamais réfléchi à avoir un pseudonyme.
Europe 1.
Mais avant de devenir réellement dessinateur de BD, eh ben vous avez passé 4 ans aux arts décoratifs, immergé avec délices dans l'histoire de l'art. On fait une pause, ZEP. Et comme la vie est pleine de surprises, c'est pas en fait aux arts déco qu'on va entraîner les auditeurs. Parce qu'on va vous retrouver à l'aube de vos 20 ans, au cours de la faculté théologique de Genève, fasciné par les questions que pose la religion. On fait une pause, on retrouve tout de suite ZEP.
Europe 1.
15h21, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et son invité, Philippe Chapuis, alias ZEP, à qui l'on doit Titeuf. Eh bien, il revient en librairie avec la suite de Captain Biceps.
Et oui, on peut avoir vendu 23 millions d'albums de Titeuf, signé tous les scénarios de Captain Biceps, le super-héros le plus balèze de tous les temps, dont le 7e album dessiné par Thébault sort chez Glénat, et être en quête de spiritualité au point, à l'âge de 20 ans, de faire des retraites assez régulièrement dans des monastères, des retraites de quelques jours dans le silence, habité des bénédictines. Vous n'avez jamais songé à entrer en religion, ZEP. Alors, qu'est-ce qui vous fascinait et vous apaisait dans cette vie cloîtrée que vous retrouviez comme ça, ponctuellement, de manière homéopathique ?
Oui, c'est une quête d'absolu, en fait, que j'ai eue à l'adolescence. Ça ne m'a pas duré très très longtemps, mais ça m'a duré quelques années. Et j'étais très intéressé par ces questions théologiques. Je ne venais pas d'un milieu très croyant. Et ça, voilà, c'est les années 80, où il y avait beaucoup de mouvements idéologiques, beaucoup de mouvements un peu, voilà, soit idéologiques, soit religieux. J'ai suivi des gens qui étaient croyants, et donc je me suis intéressé à ça. Je me suis inscrit comme auditeur à la faculté de théologie. J'ai écouté plein de gens qui parlaient, qui racontaient, comme ça, qui faisaient de l'étude de texte, de l'étude biblique. Et puis, je me suis retrouvé à aller une fois dans un monastère faire une retraite. Et j'ai aimé ça et j'ai continué pendant quelques années. Même
plus
après...
maintenant ?
Non, j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai arrêté à partir du moment où j'ai eu des enfants. Et puis après, je me suis éloigné de tout ça. Mais c'est resté quelque chose, une expérience assez forte. Enfin, il m'est resté quelque chose de ça. Et je me suis toujours dit que j'en ferais quelque chose. Ça a mis plus de 20 ans. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait un livre qui raconte une histoire là autour, qui n'est pas une histoire autobiographique, mais qui est l'histoire d'un moine chartreux qui, à un moment, après 25 ans ou 20 ans de silence, quitte un monastère pour revenir à Paris pour une histoire de succession, d'héritage. Et il se confronte au monde. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cherché à disparaître ? Qu'est-ce que ça veut dire de se couper de la société, d'aller s'enfermer quelque part volontairement. Je trouve ça, c'est quelque chose qui continue à me fasciner, parce que moi j'y allais, je restais 3 jours, hein, mais vous côtoyez des gens qui sont là pour une vie, et c'est étrange comme choix.
Alors vous avez déjà fait un livre qui n'était pas une bande dessinée jeunesse, de dessin réaliste sur une histoire de moine, mais là vous confiez, j'en ferai un jour quelque chose dans un livre, un livre simplement tissé de mots, sans un trait
non,
de plume, sans
non,
dessin.
Non, une bande dessinée, je pense une bande dessinée.
Toujours.
Ouais. Bah, pour moi, c'est un outil supplémentaire. J'ai besoin des deux. Je pourrais pas dire que j'ai plus besoin du texte ou plus besoin du dessin. Parfois, je pense que je peux m'en sortir qu'avec du dessin, mais sûrement pas qu'avec du texte.
ZEP, croire finalement, croire c'est savoir ou croire c'est espérer ?
Croire c'est parier en fait.
C'est parier.
Ouais. On parie en quelque chose. Sans savoir si on va gagner. Croire en Dieu, c'est un pari dont on ne sait jamais si on était le gagnant. Enfin, on en sait peut-être un jour quelque chose, mais de cette vie-là, on ne le sait pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai cessé de faire après quelques années. Mais c'est, pour moi, c'est une parenthèse dans ma vie dont je n'ai pas vraiment fait quelque chose dans ma vie d'auteur. Donc, ça m'intéresse de le travailler. Mais encore maintenant, c'est compliqué parce que je me rends compte que les gens avec qui j'ai eu de très fortes amitiés pendant cette période, que j'ai gardé comme amis, on ne parle pas de cette période parce que tout le monde est passé à autre chose et c'est un peu embarrassant. C'est comme si on avait fait partie d'une secte ou comme si on avait été, je ne sais pas, supporter de foot et... On n'a pas forcément envie qu'on nous ressorte les photos, on a des slips sur la tête. Quoi. Mais c'est une période intéressante parce qu'en plus, c'est un âge où on a un désir d'absolu, où on a un désir d'être dans des choses qui sont plus grandes que nous. Mm-hmm. Et je trouve que cette idée-là, elle est belle, se dire qu'on est relié à des choses plus grandes que nous, que le centre du monde, de ce qui se passe, ce n'est pas notre nombril. Et je pense que c'est une belle idée qui est intéressante de garder toute sa vie. On est plus heureux si on pense que le monde ne tourne pas autour de nous.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Nos invités nous le démontrent à chaque émission. C'est en compagnie de Zep, star de la bande dessinée, mais pas que, qu'on se promène cet après-midi. Et la balade est aussi intense qu'inattendue, alors à tout de suite.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 16h avec Isabelle Morizet et son invité cet après-midi, l'auteur de bande dessinée, Zep.
Le 7e album du plus barré des super-héros, Captain Biceps, sort chez Glénat. Thébaud assure les dessins et Zep, en plein délire, en plein lâcher-prise, signe les scénarios, c'est jubilatoire. Bon, et si Zep s'était trompé de carrière en préférant la bande dessinée à la musique? Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Non, c'est pas moi, c'est Jean-Jacques Goldman, votre vrai grand et vieux pote, dans un texte qu'il avait rédigé pour l'expo que vous consacrez il y a quelques années, le Musée du design et des arts appliqués contemporains de Lausanne. Alors, c'est une gentille provocation, bien sûr, mais quand même, ses arguments étaient lourds, parce que Goldman disait, chez lui, sur les murs, des guitares. Dans ses poches, des médiators. Dans ses tiroirs, des tonnes de CD et de vinyle. Il dessine toujours en musique. Il rêve en musique, sûrement. Parce que, d'ailleurs, il faut préciser que Zep, ça vient de Led Zeppelin. Et puis, il est persuadé que votre grand fantasme, c'est Janis Joplin à Woodstock. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait le grand plongeon, réellement?
Ah, oh, je l'ai fait, hein.
de manière anecdotique.
Mais voilà, c'est...
Toujours un peu caché.
Ouais, mais c'est, je crois que c'est bien. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais de la musique, c'est l'idée héroïque de la musique. Mais que moi, j'aimais pas être sur scène. Je suis pas un showman. Donc,
vous n'aimez pas être sur scène, mais vous avez tout de même accompagné Goldman sur la scène de l'Arena de Genève.
Ah, bien sûr,
racontez-nous.
Quand Jean-Jacques Goldman vous propose ça, vous lui dites pas non, j'ai piscine. Enfin, je l'ai fait. Mais il se trouve que j'avais.
Vous étiez à la guitare.
J'avais fait des dessins pour la pochette de son dernier album, en fait, Studio Chanson pour les pieds. Et donc, je suis allé chez lui pendant quelques temps dessiner, le voir enregistrer cet album. Et ça, c'était juste génial d'être chez Jean-Jacques Goldman, qui est en train d'accoucher d'un disque. C'est une merveille, quoi. Donc, on est devenus copains. Et puis, on s'est revus 2-3 fois. Et quand il a fait la tournée de cet album, il est venu à Genève. Il jouait 2 soirs. Et le premier soir, après le concert, il est venu à la maison. On a mangé ensemble. Et puis, il me dit, alors, à la fin du repas, on joue un peu les deux de la guitare. Et il me dit, demain, on joue ensemble.
On le fait sur la scène de l'Arena.
Voilà, moi, je pensais que c'était un gag. Je dis, ouais, bien sûr. Mais on l'a vraiment fait, en fait. Et là, je réalise que c'était un peu convenu déjà avec 2-3 personnes. Je suis là, oups.
En fait, vous avez été le dernier averti.
Ouais, complètement. Et c'était très bien, parce qu'autrement, je pense que j'aurais mal dormi les jours qui précèdent. Non, mais c'est un rêve parce qu'en fait, en plus, je viens en tant que dessinateur, donc personne n'a une attente énorme sur moi. Donc tout le monde est agréablement surpris qu'en plus, je sache un peu jouer de la guitare. Et puis bon, je suis là, j'accompagne Jean-Jacques Goldman.
Vous l'aviez accompagné sur quel titre ?
On avait joué une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « La vie ne vaut rien ». Donc on avait chanté cette chanson à deux et on l'a refait une autre fois. On a chanté une chanson de Jean-Jacques qui s'appelle « Les petits chapeaux ».
Donc vous ne faisiez pas que jouer la guitare, vous avez fait un duo avec lui, vocal.
Voilà, duo, ouais.
Formidable. Et ça n'est pas tout, Zep, parce que vous avez aussi dirigé Johnny en studio.
Ah ouais, c'était drôle. Ça. Diriger, c'est beaucoup dire, mais j'ai écrit une chanson pour Johnny. J'ai écrit une chanson pour Johnny. Ouais, c'est vrai que ça me fait maintenant que je le dis.
C'est chic.
Ouais. Oui, j'ai écrit une chanson pour Johnny.
Qu'il a interprété,
ouais, pour le film Titeuf. Et c'était vraiment une chouette expérience, ça, parce que j'avais écrit cette chanson dans le scénario. En fait, dans le scénario, il y avait Johnny qui chantait une chanson, mais il faisait plus que chanter une chanson. Il incarnait un personnage dans le film, qui était une sorte de vieux routier entre Crocodile Dundee et Johnny Hallyday, en fait.
Ouais.
Et donc, qui était une espèce de vision du héros selon Titeuf. Et donc, il y a un effet de surprise parce qu'on voit ce mec dans un train qui parle à Titeuf et tout à coup, il se met à chanter. Et là, on reconnaît tout de suite que c'est la voix de Johnny. Donc, bon, je m'étais dit, tiens, je vais lui demander. Donc, j'ai posé la question en pensant qu'il y avait assez peu de chances qu'il réponde. Et il a répondu tout de suite qu'il était OK, que ses filles aimaient bien Titeuf et que ça l'amusait de le faire. Après, ça a été quand même assez compliqué de trouver une date où on capturait Johnny Hallyday qui venait en studio enregistrer cette chanson. Mais c'était assez génial d'assister à ça, quoi, d'être dans une cabine avec Johnny qui était évidemment hyper pro, enfin, il n'y avait pas besoin de lui expliquer 30 fois, il est comédien aussi. Donc
et qui chantait vos mots.
Et qui chantait mes mots, ouais, c'était marrant.
Alors tout ça, Zep, c'était des incursions formidables, exceptionnelles dans l'univers de la musique, mais votre domaine à vous, c'est bel et bien la BD, n'en déplaise à Jean-Jacques Goldman. Bah, on reprend votre histoire qui est quand même assez édifiante, parce que à 23 ans, la bande dessinée, malgré votre talent, eh ben vous n'en viviez pas, mais pas du tout. Vous placiez par-ci par-là un strip dans des fanzines et vous étiez bien forcé d'habiter chez vos parents. Il paraît qu'à 23 ans, vous étiez prêt à renoncer à la bande dessinée.
Oui, ben, plusieurs fois. C'est-à-dire que c'était un fantasme pour moi de faire de la bande dessinée. Mais je connaissais personne, j'avais pas d'amis qui faisaient de la bande dessinée. J'avais plein d'amis qui rêvaient d'en faire aussi et qui galéraient, qui faisaient des petits boulots à côté. Mais moi, je faisais que du dessin. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai 23 ans, je ne vais pas passer ma vie à manger des boîtes de haricots et à attendre que ça passe. Donc, j'envoyais des projets à tour de bras à tous les éditeurs, mais on me refusait tout.
Et le miracle est né un jour dans le bois d'une cour de récréation, parce que votre atelier surplombait une cour d'école, c'est ça ?
Je donnais une cour d'école, ouais. Donc, au moment de la récré, il y avait tellement de bouquins que j'ouvrais la fenêtre, je regardais les enfants. Et là, il y a un jour vraiment où c'est une expérience quasi mystique. Je me retrouve dans la peau de l'enfant que j'étais à 8 ans et je retrouve les sensations de cet âge-là. Plus que des souvenirs et des anecdotes, mais vraiment les sensations. Il y a une espèce de boule au ventre, il faut aller à l'école, les filles, les racketteurs sur le chemin, enfin tout ce genre de choses. L'urgence de grandir et le sentiment aussi d'injustice parce qu'on est petit et c'est les adultes qui décident de tout, enfin... Tout était là et je me suis dit, il se passe un truc là. Donc j'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter plein de choses, j'ai noté plein de petites histoires.
Et quand est arrivé le dessin de Titeuf lui-même ? Parce que il a longtemps retravaillé le dessin de Mickey, qui a évolué d'ailleurs tout au long de sa carrière. Vous avez tâtonné ou le bon trait s'est imposé à vous miraculeusement ?
Presque miraculeusement. Parmi les recherches de personnages que je faisais, j'essayais toujours de contourner le problème des cheveux, qui est un vrai problème dans la bande dessinée.
C'est qu'en fait, qu'en plus, il faut le dessiner à 360 degrés.
Il faut le dessiner à 360 degrés. Puis surtout, vous allez dessiner un personnage, c'est pas comme si on faisait un tableau. On va le dessiner des centaines de fois, en l'occurrence, des milliers de fois. Et donc, on a intérêt à avoir un personnage qui a une certaine souplesse, une certaine fluidité dans le dessin. Si on dessine un personnage qu'on met, je sais pas, 5 minutes à le dessiner, que sur les 5 minutes, il y a 4 minutes pour dessiner les cheveux, il y a un problème. Et là, j'avais trouvé cette histoire de mèche que j'avais mis sur un autre personnage. Et quand j'ai commencé à dessiner ces histoires de cours d'école, j'ai dessiné l'école qui était sous mes yeux, et j'ai dessiné mon quartier autour, j'ai dessiné mes copains d'école, donc Hugo, Manu, Nadia, qui était la fille dont tout le monde était amoureux dans la classe. Et puis au moment de me dessiner moi, j'ai bloqué, parce que je me suis dit, oh non, j'ai pas dessiné, c'est parce que moi j'avais une coupe de cheveux vraiment à l'air Vivillard, vous voyez, une espèce de gros truc comme ça qui est fastidieux à dessiner, j'ai pas envie de faire, enfin, je savais qu'après 3 cases j'en aurais marre, et j'ai mis ce petit bonhomme à la place, et je me suis dit, comme ça je serais plus libre, parce que je serais pas non plus condamné à raconter des souvenirs uniquement autobiographiques, mais je peux aussi aller sur l'enfance de manière plus large. Et donc j'ai mis ce petit bonhomme avec une mèche sur la tête, il disait salut Manu, salut Hugo. Et il avait une tête d'œuf et lui disent « Salut Titeuf ».
Voilà, vous l'avez baptisé immédiatement.
Voilà, tout ça a duré quelques secondes.
Vous avez glissé donc quelques strips dans des fanzines. Et puis un beau jour, eh bien, Jean-Claude Camano, des éditions Glénat, qui était tombé justement par hasard sur ses aventures, vous appelle depuis Paris.
Exactement. Ouais.
Et là, l'aventure démarre. Alors, à une échelle insoupçonnée.
Alors, elle a encore failli pas démarrer parce que j'étais particulièrement... peu réceptif à mon ange gardien, parce que Jean-Claude Camano m'appelle et il me dit « Bonjour, c'est Jean-Claude Camano d'édition Glénat, j'ai vu vos pages dans le fanzine, sauf qu'il peut, j'aimerais faire un livre avec vous. » Et j'étais sûr que c'était un copain qui me faisait une farce. Donc je lui dis « Haha, très drôle » et je boucle le téléphone. Et après, je boucle le téléphone et je reste comme un crétin à côté de mon téléphone. Et je dis « Mais putain, qui c'est qui me ferait une blague pareille, c'est idiot. Enfin, alors là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, ça ressonne immédiatement, donc je décroche. Et oui, Jean-Claude Camano, nous avons été coupés. Et je dis, ah oui, oh, c'est le téléphone en Suisse, ça marche très mal. Et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça.
Alors, elle a commencé comme ça, mais en fait, à 24 ans, l'âge où on fait tout pour tourner le dos à son enfance, et ben vous, Zeb, vous avez repris cet univers à bras-le-corps en vous substituant à Titeuf. Aujourd'hui, vous êtes un jeune quinca qui a donc passé une grande partie de sa vie, j'ai envie de dire, planqué sous la mèche blonde de Titeuf, qui a 11 ans pour toujours. Donc Titeuf, il ne vieillit pas, vous si, et le monde, lui, il change à une vitesse affolante. Elle n'est pas si simple que ça, la problématique ?
Non, elle n'est pas si simple, mais c'est une gymnastique intéressante. Ça aide à rester souple. Entre-temps, je fais aussi d'autres projets, je ne suis pas que dans l'enfance, mais c'est vrai que j'ai passé... bientôt 30 ans de ma vie avec Titeuf. Et c'était pas du tout prémédité. En fait, l'enfance s'est un peu imposée à moi. Elle est venue me rappeler. Moi, je m'y attendais pas. Je me rendais compte qu'il se passait quelque chose qui était intéressant dans ce projet-là, parce qu'il était plus libre que tous les autres. C'était pas un projet que je faisais pour essayer de plaire à un éditeur ou un journal. Je le faisais parce que ça coulait tout seul. Et je pensais même, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le dessiner, je ne pensais pas le proposer, je pensais le garder comme une sorte de journal personnel, un travail personnel. Et j'ai juste passé quelques pages dans un fanzine à Genève qui se sont retrouvées chez Jean-Claude Camano. Il s'est passé.
Et vous ne pouviez pas imaginer qu'un jour, en pleine campagne présidentielle, au cœur d'un journal télévisé, eh bien, Jair Bolsonaro prendrait un exemplaire de Titeuf, n'est-ce pas ? 23 millions d'exemplaires vendus tout autour de la planète. Allez, on fait une pause et on retrouve tout de suite Zep.
Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit le créateur de Titeuf, Zep, à l'occasion de la parution du 7e tome des aventures de Captain Biceps, paru chez Glénat et qui a pour titre L'Increvable, déjà en librairie. Sachez aussi qu'une intégrale sortira le 9 octobre prochain.
Zep. Il y a à peu près un an, loin de l'univers des bandes dessinées jeunesse qui font votre gloire partout dans le monde, vous avez sorti un album au dessin réaliste qui était une ode à la nature au travers de l'histoire incroyable et pourtant vraie des koudous de Transvaal, ces antilopes dont l'existence a été régulée par, j'ai envie de dire, l'intelligence des arbres. Vraiment, il s'agit de ça. C'est votre fils aîné qui vous a rapporté cette histoire et comme le sujet est fascinant, vous avez contacté un botaniste parmi les plus visionnaires, Francis Allais, fabuleux personnage, qui a accepté de collaborer à la naissance d'un livre très, très particulier. Ça a été une aventure incroyable parce que cette aventure, elle vous a emmené jusque dans les fjords, enfermé dans une cabane où vous avez passé une dizaine de jours à dessiner des oiseaux perdus, seuls au monde, en observateur. Racontez-nous.
Oui, ça c'est, l'album s'appelle « The End ». Et c'est une histoire de fiction, mais qui est une fiction qui est presque plausible. Je suis parti sur cette histoire, donc effectivement, où les koudous du Transvaal sont, enfin, des koudous, donc ces grosses antilopes sont retrouvées mortes chaque matin dans un parc, et on va mettre des mois à savoir quel est le prédateur qui les tue et qui les tue et qui ne les mange pas en plus. Et ça va être un moment. Un botaniste qui est assez visionnaire, qui n'est pas Francis Allais, qui est un botaniste de là-bas, qui va dire, mais peut-être que ce sont les arbres qui les ont tués parce qu'elles sont trop nombreuses. Mmh. Et donc, la communauté scientifique va se moquer de lui, c'est n'importe quoi. Et on va se rendre compte qu'effectivement, les acacias, qui sont la nourriture principale des koudous, alors pilotés par leur propre intelligence ou une intelligence de la nature qui dépasse un peu juste une espèce,
va sécréter une substance nocive et mortelle.
Elle va faire monter son taux de tanin très très fort à l'instant, au moment où les koudous viennent manger.
Et seulement à ce moment-là.
Voilà. Et après, ça redescend, ce qui fait que si on analyse les feuilles, elles sont complètement comestibles. C'est une sorte de crime parfait.
Incroyable.
Mais c'est suffisamment fort pour les tuer quand ils viennent manger. Et donc, comme ça, ils vont réguler l'espèce. Et je suis parti sur cette idée, effectivement, qu'il y avait un dessin de la nature plus large que ce qu'on imagine. Maintenant, c'est quelque chose qu'on dit de plus en plus, c'est-à-dire que tous les vivants sont connectés et que peut-être le seul être vivant qui est déconnecté des autres sur cette planète, c'est l'homme, qui peine énormément à comprendre le message de la nature. Pourtant, il commence à devenir assez clair. C'est que l'homme ne se comporte pas de manière très... Enfin, en tout cas, il apporte rien à l'équilibre général. Au contraire, il crée plutôt un déséquilibre. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire où à un moment, effectivement, la nature va décider de est-ce qu'on garde l'homme ou est-ce qu'on ne le garde pas. Et je trouve qu'on est tellement dans cette idée, moi j'ai été éduqué là-dedans, que l'homme est l'espèce supérieure sur Terre, l'espèce intelligente.
Et ce n'est pas ce que pense justement le botaniste Francis Allais, n'est-ce pas ?
À Francis Allais, justement, lui, je suis allé le rencontrer, parce que c'est un botaniste extrêmement passionnant, visionnaire, parce qu'il dit l'intelligence, elle est autour de nous, écoutons la sagesse de tous ces vivants qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui ont effectivement une expérience de la vie sur Terre qui nous dépasse. Et il le dit avec beaucoup d'humour aussi, c'est-à-dire qu'en conférence, moi j'avais été l'écouter aussi en conférence, des gens lui disaient, oui, mais quand même, vous rendez compte, la déforestation, ce qui se passe en Amazonie, comment vous réagissez ? Alors, on n'était pas encore dans le drame des incendies, mais c'était juste la déforestation mécanique, les gens qui viennent et qui abattent les arbres pour histoire d'argent. Il disait, moi, c'est pas trop grave, parce que les arbres, vous savez, si on rase l'Amazonie, elle va repousser. Dans 700 ans, il y aura de nouveau une forêt primaire en Amazonie. Il faudra juste apprendre à arrêter de respirer pendant 700 ans. Donc voilà, on agit de manière complètement inconséquente face à l'équilibre, mais ce qu'on met en péril en premier, c'est notre espèce, parce que les autres espèces, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous aussi. Voilà. Moi, ça m'a donné envie d'écrire une histoire là-dessus, donc j'ai écrit une fiction, hein, une fiction qui est une sorte de ce qu'on appelle un livre post-apocalyptique. Et j'ai demandé à Francis de relire tout ça pour que ce soit le plus plausible possible,
bien
même
sûr.
Si c'est de la fiction. Et comme j'utilise toujours dans ces livres réalistes, je demande à des gens de poser pour moi, pour figurer les personnages.
Il a accepté.
Il a accepté, et donc il prête ses traits aussi au professeur de cette histoire.
Et vous avez fait du repérage pour ça. L'album est baptisé The End, je le rappelle, titre peut-être dramatiquement prémonitoire. Vous êtes donc allé vivre une dizaine de jours dans une cabane sur une île, dans les fjords. Juste vous, la nature, les oiseaux, Zep. Vous avez vécu comment cette pause dans un monde sans traces d'humains ?
Oh, c'était génial, c'était magnifique. Moi, j'adore ça. De toute façon, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, d'aller dessiner dans la montagne, de partir. Alors, peut-être que j'ai gardé ça de mes expériences de monastère, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui nous remet face à... Quand on dessine un arbre qui a 300 ou 500 ans, par exemple, on ne peut pas ignorer qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous dans cette nature.
Alors, Zep, vous êtes sorti de cette aventure avec une certitude très forte que vous partagez d'ailleurs avec ce botaniste, Francis Allais. Vous pensez que l'homme est appelé à disparaître pour la survie de la planète. C'est la nature qui va s'en charger avant qu'il ne soit trop tard pour elle.
En tout cas, là, on est en train de nous dire que oui, en continuant comme ça, on va vers notre disparition, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que... Parce que ça, c'est une idée... apocalyptique qui fait peur. En fait, quand on dit ça, les gens soit ont très peur, soit disent, parce qu'ils veulent pas rentrer dans cette idée pessimiste, ce sont des conneries. Et dans les deux cas, c'est pas très constructif de dire ça, mais j'ai pas envie de faire peur aux gens. Je fais peur dans cette histoire parce que j'aime aussi raconter des histoires qui font peur. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que l'homme est pas le maître de la Terre. C'est que l'homme est le dernier arrivé et qui doit parfois fermer sa gueule et écouter ce que dit la nature et qu'on a à apprendre de cette nature. Et je trouve même cette idée assez libératrice parce que, à contrario avec l'idée qu'on est le maître de la Terre, donc on est dépositaire, responsable de tout ce qui s'y passe, donc il faut qu'on règle tous les problèmes. Pas forcément. La nature règle énormément de problèmes. Il faut qu'on règle les nôtres déjà. Et on a des problèmes de la manière dont on se nourrit, dont on se loge, dont on se chauffe, dont on se déplace. Ça, ce sont des problèmes typiquement humains et qui ont des répercussions sur la manière dont on exploite la planète et qui va faire que peut-être elle n'aura plus envie de nous dans peu de temps. Mais
elle n'aura plus envie de nous.
Elle n'aura plus envie de nous. Non, je pense qu'il y a effectivement... C'est intéressant de voir que tous les animaux sont connectés. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un incendie, quand il y a tout à coup un changement climatique qui arrive, un courant froid ou un courant chaud qui arrive, tout le monde est au courant, à part l'homme. Nous, on est les seuls qui sont toujours... On est là, on ne sait pas. On a un anorak, tout à coup, il fait 30 degrés, mais personne ne nous a dit.
Qui s'en remet à ses machines,
alors que les oiseaux, ils sont déjà tous partis depuis une semaine. Enfin... Donc c'est dommage, il faudrait qu'on arrive à retrouver cette connexion.
Comme par exemple pour les tsunamis, n'est-ce pas ?
Exactement. Ouais.
On fait une pause très courte et on retrouve Zep.
Europe 1. 15h53, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et son invité.
Je reçois Zep, auteur de bande dessinée, mais pas que, qui scénarise le 7e album de Captain Biceps qui sort chez Glénat. Zep, on dit plus de soi quand on dessine le réel quand on dessine de la fiction ?
Oh, ça c'est une bonne question. Je pense qu'on dit plus de soi quand on dessine de la fiction. Parce que par exemple, quand on dessine son journal intime, on peut raconter, choisir ce qu'on raconte et ce qu'on ne raconte pas. Quand on dessine de la fiction, on se livre sans s'en rendre compte.
Alors, tous les dessinateurs de BD n'ont pas un talent d'aquarelliste, vous aussi. À l'étranger, par exemple, au Japon, vous aimez bien partir avec vos carnets d'aquarelles et puis vos pinceaux télescopiques. C'est une façon de repenser la poésie du réel et de vous débarrasser peut-être des tics du dessinateur.
Oui, c'est une manière d'apprendre le monde, en fait. On apprend en observant et moi, j'ai besoin d'observer. D'abord, c'est arrivé parce que quand on fait de la bande dessinée, il faut très vite savoir dessiner un peu tout. Parce que, voilà, on doit savoir dessiner des décors, des personnages, des voitures, des villes, de la campagne, sous toutes les coutures, parce qu'on doit pouvoir faire une mise en scène. Et on n'a pas le temps d'apprendre ça, parce que souvent, c'est un métier qu'on commence quand on est très jeune. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on copie chez les autres. On regarde, tiens, comment il a fait ça, comment Franquin, il a fait une voiture, comment lui, il a fait un escalier. On copie chez les autres. Et donc, notre vision du monde, c'est une vision des bandes dessinées des autres. Et il y a un moment où c'est...
Il faut s'affranchir de tout ça.
Il faut s'affranchir. Donc après, il faut qu'on récupère et qu'on réapprenne à traduire le monde avec notre propre trait. Et là, pour moi, la seule manière de le faire, c'est d'aller dehors, de regarder les gens, de regarder...
Et l'aquarelle, c'est bon réapprendre à dessiner ?
L'aquarelle, c'est parce que c'est agréable. On n'est pas obligé de le faire à l'aquarelle, on peut le faire avec des crayons simplement. Mais j'aime bien dessiner d'après nature. Et puis, c'est aussi un exercice que j'aime faire, qui me procure du plaisir. C'est une sorte de contemplation. Je dessine des choses que j'aime bien dessiner. Je vais dessiner.
C'est pour ça que vous aimez aller, avec vos carnets d'aquarelle, dessiner par exemple au Japon, lorsque vous y rendez, j'imagine, assez souvent.
C'est quelque chose que je fais plus facilement en voyage aussi, parce qu'en voyage, je ne bosse pas. Donc, ça me démange de dessiner, mais je n'ai pas mon atelier, donc je dessine. J'ai une espèce de mini-atelier portatif qui tient dans une toute petite boîte d'aquarelle qui est la taille d'un paquet de cigarettes.
Mais par exemple, dessiner chaque année, au fil d'une vie, comme ça, tout au long d'une vie, le même paysage pour voir comment évolue le regard et le trait, c'est une expérience que vous trouvez intéressante ?
Ah oui, c'est génial. C'est génial. Mais même dans l'absolu, dessiner le même personnage toute sa vie, il évolue. Et il sera
il
pas...
a bougé, Titeuf.
Bien sûr, ouais. Il a bougé et il bouge avec moi. C'est-à-dire, il ne vieillit pas, mais quand même si un peu, puisque c'est moi qui le dessine et que la main qui le dessine le modifie un peu. Très peu, hein. Ce n'est pas spectaculaire, mais moi, je vois bien qu'il a changé.
J'ai appris que votre fils de 16 ans s'est lancé dans la création d'un comics, mais voilà, à dimension, on va dire, familiale. Vous l'observez de quelle façon ? Vous osez le conseiller ou vous attendez qu'il vienne à vous pour éventuellement des questions ?
Oh, il n'a pas tellement...
Et d'ailleurs, il n'a pas du tout envie d'en poser à son père.
Non. Non, je suis fier, ça me fait plaisir, parce que je me dis que s'il a pris le goût de raconter des histoires en dessinant, moi je trouve que c'est une chose magnifique, qu'il en fasse son métier ou pas, hein, mais c'est quelque chose de bien, donc ça me fait plaisir, je suis très fier de le voir, il dessine bien. Tous mes enfants dessinent, donc ont le goût du dessin, plus ou moins, donc c'est quelque chose qui me ravit.
Alors vous dites, bien sûr, les enfants connaissent toujours le plaisir de lire une histoire, mais... Je vois bien que les miens ne lisent plus tout à fait comme nous, on lisait. Les codes changent. Ils aiment cliquer sur des tablettes pour avoir de la réalité augmentée. Moi, je suis très attachée aux codes si fragiles et si précieux de la bande dessinée. Donc, je vous pose la question. Il y aura toujours des cases, des bulles et des héros qui vivent des choses absolument folles sur du papier ?
J'aimerais vous dire oui, mais je ne sais pas. J'espère. Je croise les doigts pour que ça continue à exister, parce que c'est quelque chose qui est magnifique. Et je trouve que le livre, c'est quelque chose qui n'est pas remplacé. La manière dont on lit un livre, voilà, on lit un livre. C'est-à-dire qu'on est acteur aussi dans ce qui se passe. On est acteur dans l'histoire qu'on raconte. On doit pénétrer les personnages, se mettre dans leur peau, créer le rythme, créer la musique, créer les sons. Et tout ça, c'est quelque chose qui fabrique notre imaginaire. Après, on aura une vision du monde où on connaîtra un petit peu comme si on avait été tous ces gens-là, quand on a lu. Je pense que quand on regarde un film ou quand on joue un jeu vidéo où on est un personnage, on ne peut pas dire qu'on s'approprie ce personnage. Parce que ce personnage, il est là que pour conduire une voiture ou tirer sur des gens. Donc, c'est pas... Je pense que le jeu vidéo occupe énormément, c'est génial. Mais moi, je le constate sur mes enfants. Ils peuvent passer 8 heures sur un jeu vidéo. Si je leur demande ce qu'ils ont fait, il ne reste pas grand-chose. Alors que si on a lu un livre qui nous a passionné, on a envie d'en parler parce qu'on a l'impression qu'on a accédé à un niveau supérieur de compréhension du monde. Et je trouve que ça, c'est vachement important. C'est pour ça que j'espère que les gens vont continuer à lire et que c'est pas quelque chose qui va disparaître, parce que ça pourrait disparaître. C'est-à-dire que c'est plus confortable de s'asseoir et de mettre un casque de réalité virtuelle et de devenir, je sais pas, un cow-boy qui se balade sur un cheval et qui tire sur tout le monde. Mais je pense pas que ça va autant nous apprendre à vivre ensemble dans ce monde, à avoir une compréhension de ce qui se passe partout dans le monde, que si on va dans de la fiction. Donc je croise les doigts pour que ça continue. J'ai été parrain de l'édition Partir en livre cette année, parce que je crois aussi que c'est vachement important d'aller offrir la lecture aussi à des gens qui n'ont pas forcément accès à ça, qui ont peur d'entrer dans une bibliothèque ou dans une librairie, parce qu'ils ne savent pas quoi demander comme livre et qu'ils ont l'impression que c'est intimidant de se jeter dans des livres de 200 pages, alors que pas besoin d'avoir fait des études pour lire un livre. Enfin, c'est vraiment... Il y a des livres de toutes sortes, hein, évidemment, mais c'est ouvrir la porte d'un univers qui est quasi infini.
Alors, vive les livres, et la bande dessinée en particulier. Merci infiniment pour cette balade vraiment jubilatoire, Zep.
Merci
beaucoup.
Bon
retour en Suisse. Je vous dis à très vite. Merci.
Merci. Europe 1.